Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Valley Hoop, le podcast de l'actualité des Phoenix Suns. Cette semaine, clairement, le bilan des Phoenix Suns n'est pas tout à fait ce qu'on espérait côté Valley Hoop et côté de la fanbase de la franchise d'Arizona. Mais on va quand même discuter notamment du match qui opposait les Phoenix Suns aux Blazers la nuit dernière. Match perdu 109-104 sur le parquet des Blazers à Portland dans l'Oregon. Et puis, pour parler de tout ça, cette semaine, enfin, la joie de recevoir à nouveau Hicham, taulier de cette équipe de Valley Hoop qui nous a tant manqué pendant des semaines. Comment ça va, Hicham?
Ouais, ça va recevoir façon invitée, la limite.
Mais oui, parce que là, vraiment, tu as raté 3 épisodes. Tu vois, c'est presque un guest de luxe, quoi. Mais non, t'es vraiment un taulier de la bande. J'espère que tu vas bien.
Bah, ça va bien, ouais, pas mal occupé dernièrement. C'est vrai, c'est un petit peu difficile parfois de joindre les deux bouts, mais j'étais là, je vous ai studieusement écouté, plein de choses intéressantes vous avez dites, toi et Rod, ces dernières semaines. J'aurais bien aimé être avec vous, et bon, je le serai bien sûr beaucoup plus régulièrement, comme à l'habitude. Mais voilà, vous avez bien tenu, plus que bien tenu la barque. Et puis, je te laisse introduire notre guest. Ça déchire qu'on ait un ami avec nous.
Parce que cette semaine, c'est très cool. On a Victor, qui est un des community managers de Blazers France, Blazers FR, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Victor, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Et
merci,
ça va très bien. ton équipe nous a mis 109-104 la nuit dernière. Non, évidemment, ça va très bien. Il me semble que ça fait suite à une série de défaites de votre côté qui s'arrêtent contre nous. On a cette fabuleuse tendance à donner, ou en tout cas à permettre la victoire de concurrents de bas de tableau. On se souvient du 2-0 que nous ont mis les Spurs en début de saison. Là, cette fois-ci, c'est les Blazers. Ravi de vous avoir donné cette victoire et d'avoir été le coup d'arrêt de votre série de défaites.
Voilà. Elle fait vraiment plaisir cette victoire, mais j'avoue que je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait venir au match suivant, qui était plus logique de gagner contre les Wizards. Ouais. Mais force est de constater que ça s'arrête à 7 et pas à 8, comme j'avais prévu.
Ouais, les pronostics ne sont pas toujours très bons cette saison, et particulièrement de notre côté Suns, donc on te comprend et on compatit sur les pronos. Petit générique, et puis on attaque rapidement le vif du sujet. These boys are my sons like Phoenix, my city. See the shots that I took, wet like on book. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, oh. Sun came out, I went about a drop top. Allez, c'est parti. On va discuter donc particulièrement de ce match qui opposait les Suns aux Blazers sur le parquet des Roses du côté de Portland, Oregon, United States. Quelques stats individuelles et collectives rapides à vous donner, les gars, avant de vous poser des premières questions. On a côté Suns, Kevin Durant à 40 points, 5 passes, 4 rebonds. Grosse soirée pour Kevin Durant, clairement encore une prestation de calibre MVP. Dommage que les Suns n'aient pas un bilan un petit peu plus haut pour faire valoir son dossier dans la course au MVP, qui est quand même bien chargée cette saison. On a Devin Booker, qu'on a vu un petit peu fantomatique slash bizarre slash un peu à part dans le jeu, qui signe quand même une prestation à 26 points et 7 passes, 3 rebonds également. Et puis ensuite on a Grayson Allen, un poil maladroit de loin, 1 sur 5, 11 points pour lui, 9 rebonds au total. Yusuf Nurkić, 13 rebonds pour 9 points. Et puis ensuite, Nasir Little et le reste des roleplayers à beaucoup moins de 10 points. Donc, plutôt anecdotique dans le rendement et la production de l'équipe. Côté Blazers, on a DeAndre Ayton, l'ancien Sun, qui est à 16 points et 15 rebonds. On a Anfernee Simmons, 23 points, 7 passes, 22 points pour Jeremy Grant, toujours présent, hein, vraiment lui, il adore jouer contre les Suns. Je me souviens de lui qui nous avait fait la misère la saison passée lors de nos deux premières rencontres face à vous, en l'absence de Lillard en plus, que vous aviez gagné, et notamment à domicile chez nous. Et puis Toumani Kamara, également drafté par les Suns, qui signe une prestation à 5 points et 9 rebonds et 3 interceptions. Et du coup, clairement, Toumani Camara, titulaire, 52e pick de draft 2023, titulaire du côté des Blazers cette saison. J'ai plusieurs questions à vous poser, les gars. Mais d'abord, parole à l'invité, Victor. Comment tu penses que les Blazers ont su tirer parti de leurs ressources pour prendre ce match face aux Suns? Parce que clairement, sur le papier, les Suns partaient plutôt favoris, mais les Blazers l'emportent à la fin. Pour toi, ça s'est déroulé comment de votre côté?
Déjà, c'est un truc qu'on voit depuis plusieurs matchs. Donc même si le bilan il le transmet pas, déjà il y a eu beaucoup de blessures, mais on est souvent une équipe qui se laisse tuer au début de match et hop on se réveille. C'est arrivé contre les Mavs, c'est arrivé contre les Clippers, c'est arrivé contre les Warriors récemment dans les 5-6 derniers matchs où on descend jusqu'à moins 10, moins 15, quasiment moins 20 et au final on a un match serré quasiment à chaque fois. Donc on est une équipe qui est trop en réaction, donc c'est pas anormal, c'est pas totalement vous qui avez de choc, on va dire, pas à 100%. C'est aussi beaucoup nous qui avons l'habitude de fonctionner comme ça. Une équipe qui se laisse marcher dessus avant de rebondir.
Ok, je vois, du coup, parce que moi, personnellement, je veux pas parler au nom d'Hicham, mais je pense que Hicham, c'est à peu près la même belote, mais disons qu'on regarde davantage le match des Suns, mais c'est effectivement intéressant de voir qu'il y a eu une première entame de match sur le premier quart-temps particulièrement et ensuite un petit peu sur le deuxième où clairement vous êtes dans les choux sur le premier quart-temps, ça part pour être un blowout pour les Suns. Deuxième quart-temps, on sent que ça se rééquilibre un petit peu. Et par contre, dès le troisième quart-temps et même jusqu'au quatrième, clairement la partie s'inverse complètement. Les dynamiques sont latéralement opposées, diamétralement opposées pardon, à ce qui s'était passé en première mi-temps et vous passez de loin devant. Pour finalement l'emporter 109-104. Toi, Hicham, est-ce que tu trouves qu'il y a des signes côté Suns qui sont présents dans ce match et qui relèvent d'un problème plus général qu'on rencontre depuis quelques matchs côté Suns? Et si oui, et si tu trouves ces signes-là, est-ce que tu es capable de les identifier?
Ouais, clairement, on n'a pas encore passé la tête au-dessus de l'eau, quoi. J'ai envie de dire les problèmes habituels depuis le début de saison. Toujours pareil, que ça soit des turnovers, une certaine maladresse en particulier en fin de match, un secteur intérieur au niveau de la protection de cercle en berne, avec ou sans Nurkic, c'est à peu près la même chose. Enfin, j'ai pas vérifié statistiquement, mais c'est l'impression en tout cas que ça donne. Plein de points, plein de choses à améliorer. Alors, en écoutant différents podcasts, nos amis US, que ce soit des Timeline ou Phoenix, Suns ou d'autres, c'est un petit peu les mêmes thèmes qui reviennent de manière récurrente. Ça parle beaucoup de systèmes défensifs qui essaient d'être implantés, qui sont peut-être assez complexes, qui nécessitent beaucoup d'automatisme, et on voit que régulièrement nos joueurs sont un petit peu égarés au niveau de leurs assignations, hein, voilà, leur match-up. On joue beaucoup en switch la plupart du temps, hein, c'est en switch avec drop defense du pivot, mais de temps en temps il y a des petites surprises où on voit Nurkic plus être en edge, c'est-à-dire essayer vraiment de monter en pressing à deux sur le porteur de balle, mais voilà, toujours un petit peu les mêmes soucis. On sent que ça pêche, ça peine au niveau de la rotation, surtout des forwards. Un petit peu toujours la même rengaine, donc je ne vais pas relancer le même disque que celui qu'on a écouté, que ce soit dans notre podcast ou d'autres sources ces dernières semaines. Mais voilà, des problèmes sont identifiés. J'ai envie d'ajouter à ça, faut un petit peu mettre la responsabilité, j'ai envie de dire, de Booker, notre franchise player, là où elle est. Je regarde les matchs parfois deux fois pour vraiment essayer de m'assurer de ce que j'ai vu la première fois. C'est un peu douloureux de regarder des défaites deux fois, mais je me suis un petit peu fait ce mal-là récemment, et ma première impression a été confirmée par ce que j'ai vu, c'est-à-dire on voit un Booker qui est nettement plus désintéressé par certaines tâches défensives qu'il ne l'a pu être ces dernières saisons, où il a montré des beaux progrès, une volonté, une envie, une hargne, qui en a fait un défenseur, j'ai envie de dire, neutral, quoi, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, mais en tout cas pas un point faible, pas un maillon faible, tandis que là, clairement, depuis le début de saison, on peut dire que Booker est vraiment un maillon faible en défense. Parfois, voilà, comme ses premières années, il a tendance à laisser son joueur aller un peu là où il veut, et puis lui, il se place un peu là où il veut, et il attend de voir ce que le shoot va donner, et puis généralement, ça fait ficelle, parce que le mec a un shoot ouvert dans le corner ou dans l'angle à 45 degrés, le genre de truc vraiment pas plaisant à voir. Alors ça peut aussi s'expliquer, je vais pas trop m'étendre sur le sujet pour vous laisser un peu la parole les gars aussi, mais on sait que Booker, il a des grosses responsabilités, un gros usage rate en attaque, il porte beaucoup de ballons, il fait le jeu, il distribue la gonfle, il score des points. Depuis qu'il est revenu de blessure, bon, il n'a pas loupé de match, mais ça veut dire, je ne sais pas, je crois que ça fait peut-être une dizaine de matchs, en gros, qu'il est là à chaque fois. Et en gros, peut-être que le fait de trop lui en demander, de ne pas avoir un vrai meneur de métier dans l'équipe, quelqu'un qui est capable vraiment d'assurer le fait de porter la gonfle et de distribuer un peu le jeu, surtout en l'absence de Bill, ça fait que il dépense énormément d'énergie en attaque et qu'il a plus grand chose dans le réservoir pour la défense. Et du coup, c'est un vrai problème qu'il va falloir régler si on a vraiment si on veut se donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire d'aller pas seulement le plus loin possible en play-off, mais vraiment d'être des contenders sur les deux ou maximum trois prochaines saisons. C'est vraiment l'horizon des Suns. On le sait, c'est quelques années, voilà, où on profite du prime de Booker et du très bon niveau de jeu de Durant. On va voir pour Bill ce que ça va donner. Mais ça pose des vrais problèmes sérieux. Je ne sais pas si on aura le temps de les aborder pendant ce podcast. Peut-être que ça nécessitera un podcast à part entière. Mais il y a vraiment pas mal de trous à combler et de choses à régler. Et pour moi, la priorité absolue, c'est que coach Vogel, il trouve une rotation sur laquelle il peut s'appuyer et qui développe des automatismes avec 10, 11 joueurs grand max. Donc forcément, il y en a certains qui vont rester sur le carreau. Et il faut que ces joueurs-là développent rapidement des automatismes défensifs et offensifs et qu'on essaye de lancer la machine pour le deuxième tiers de la saison, parce que sinon, on peut se retrouver assez salement d'ici le mois de février, avec un bilan peut-être tout juste à l'équilibre. Tous les scénarios sont possibles et dans une conférence ouest forte, ça risque d'être très problématique. Donc voilà un petit peu mon bilan, grosso modo, de ce match, mais en vrai de la saison, puisque ce match, c'est un petit peu une image réflexive de ce qu'a été notre saison depuis le début.
Ouais, je te rejoins, c'est un vrai polaroid ce match contre les Blazers, de ce qui se passe dans la dynamique de l'équipe depuis, disons, 5 gros matchs. Peut-être pas depuis 10 matchs, mais en tout cas depuis 5 matchs. On voit cette équipe, même au moment du retour de Bradley Beal, on voit cette équipe chercher des choses qui n'existaient pas chez elle, à savoir des solutions alors qu'il y avait beaucoup plus simple à jouer. Il y a des phases de jeu où ça manque de dynamique et de mouvement. Il y a notamment une phase de jeu hier contre les Blazers qui est manifeste dans le troisième quart-temps. Il doit rester 3,40 ou 3,30 à jouer. On a Booker qui initie l'attaque, qui se retrouve à 45 degrés côté gauche. On a Eubanks qui essaie de fixer un écran pour Kevin Durant. Kevin Durant ne prend pas l'écran pour faire un appel pour aller voir Durant, pour aller voir Booker. Par exemple en dribble end-off ou en pick and roll, etc. Et en fait, on se retrouve avec Booker qui est complètement isolé, qui doit jouer une iso complètement idiote, quoi, alors qu'il y a d'autres solutions sur le parquet. Et puis, le compteur avance, 20 secondes à jouer, 22 secondes à jouer, shoot casse-croûte, airball, fin de possession. Ça, c'est vraiment symbolique de ce qui se passe autour de Devin Booker qui est isolé, qui paraît un peu isolé sur le terrain, sans doute parce que on arrive peut-être au bout des premières idées qu'avaient dessiné Frank Vogel et Kevin Young, ainsi que peut-être David Fizdale du côté du coaching staff des Suns. Peut-être aussi parce que lui n'est pas optimisé dans ce rôle, hein. C'est une critique qu'on entend beaucoup dans la fanbase. Il a effectivement ce rôle de playmaker central et premier primaire dans l'équipe des Suns cette saison sur le parquet. effectivement, ça lui prend des énergies qu'il a ensuite du mal à retrouver du côté de la défense. Hier, en défense, c'était vraiment, ça servait à rien de l'avoir sur le terrain. Les Blazers s'attaquaient à 5 contre 4. Et donc, peut-être que cette énergie perdue en attaque à avoir un besoin volumineux de ce moteur offensif qu'est Devin Booker, et ben, lui fait perdre son empreinte générale sur le match, qui, comme tu le dis, Hicham, peut être neutre, puisque c'est un défenseur tout à fait capable. Alors, petit retour en statistique sur le match d'hier, qui est aussi symptomatique de ce qui se passe depuis 5 à 10 matchs du côté des Suns. Une vraie dégringolade à 3 points, sur laquelle on se fait vraiment punir, et hier notamment. Les Blazers shootent à 50% hier à 3 points, donc c'est une adresse relativement exceptionnelle. Je ne sais pas, Victor, tu nous diras si elle est relativement habituelle du côté des Blazers d'avoir une adresse aussi haute comme ça, au-dessus de 40%. Et hier soir, c'est 14 sur 28, donc c'est 50%, c'est énorme. Avec notamment des cartons de Brogdon qui est à 4 sur 9, Jeremy Grant à 3 sur 4, le moins adroit est finalement Anfernee Simmons qui est à 2 sur 7, on a Ty Bull qui est lui à 2 sur 3, donc on a vraiment des shooters qui rentrent leur panier. Et côté Suns par contre, c'est pas du tout la même histoire, on est à 21,7% à 5 sur 23 et on a aucun joueur qui rentre plus de 1 panier à 3 points de toute la rencontre, avec un 1 sur 5 de Devin Booker et de Grayson Allen qui est notre shooter le plus adroit depuis le début de la saison. Et clairement, depuis le début de la saison, il y a une vraie, vraie descente aux enfers des Suns à 3 points. Sur les 20 premiers matchs, les Suns sont en 37,8% d'adresse, 35,4% sur les 15 derniers. Ça descend à 33% si on ne prend que les 10 derniers matchs, 30,9% sur les 5 derniers matchs. Et sur les 2 derniers matchs, 22,2% d'adresse à 3 points. Quand on est une équipe qui vit comme ça par le kick-out sur les drives, notamment de Grayson Allen et puis surtout de Devin Booker, ou par ceux de Kevin Durant sur ses post-ups quand il a l'occasion de trouver des shooters à 45 degrés ou dans le corner, c'est vrai que c'est très 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 difficile de survivre dans l'adversité, quelle que soit l'équipe qu'on a en face. Donc voilà l'état des Suns lors de ce match face aux Blazers. Toi, de l'extérieur, Victor, comment tu vis le jeu des Suns sur le parquet? Comment hier, dans ce match, tu réagissais à ce que les Suns ont montré?
Alors déjà, ce que tu as dit sur la clé du match, je suis d'accord qu'elle se passe à 3 points. Déjà, sur notre adresse, elle n'est pas du tout normale vu qu'on est... On est une équipe, on va dire, moyenne. J'ai regardé les ratings. On était 25e au pourcentage et à peu près au volume, c'est pareil, sur les 20 premiers matchs de la saison. Et depuis le retour de Anfernee Simmons, qui est un des meilleurs shooters de la ligue, et aussi un gros créateur, il space beaucoup pour tout le monde. On est monté à la 15e en termes de pourcentage. Mais bien sûr, 50%, 14 sur 28, c'est pas normal. Mais un autre point qui peut-être vous rassurer sur votre pourcentage sur ce match, c'est que en fait, on est une des meilleures défenses, on est la deuxième meilleure défense de la ligue sur le pourcentage autorisé à l'adversaire. En moyenne, on autorise moins de 33%, 32,7%. Donc, vu qu'on a des gros défenseurs extérieurs avec Kamara, Ty Bull, Grant, etc. Donc, même Scoot, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, les défenses qui se mangent un petit peu sur leur pourcentage à 3 points contre nous. Et autrement, dans le match, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a étonné, c'est que vous nous avez mis beaucoup de points en contre-attaque. Je crois qu'il y a un delta de plus 20 pour vous. On a très peu joué en contre-attaque et vous, oui. Alors que, vu la jeunesse, etc., de notre équipe, on peut s'attendre à l'inverse. Mais c'est plus vous qui avez joué vite. Et nous qui avons voulu jouer demi-terrain, etc. Et Billups l'a dit en conférence de presse. Il était confiant dès que le jeu était en place, en demi-terrain. Il savait qu'on avait notre carte à jouer. Je pense que oui, tout le match se joue sur les 3 points. De toute façon, un match qui se finit à quelques points d'écart, à 5 points d'écart, forcément, quand il y a un tel delta de shoot à 3 points à rentrer, c'est là que ça se joue, malheureusement pour vous. ça s'explique pas tout le temps par la qualité des joueurs, la qualité des systèmes, etc. Parce que nous, on n'est pas la meilleure équipe offensive, clairement. Ça s'explique juste parfois par la réussite. Mais sur ce match, pour le coup, on a bien défendu, je trouve. Et on a bien attaqué aussi. Beaucoup de créations, de faire 17 passes. Beaucoup de... Tout le monde qui est toujours prêt, ça j'aime bien à Portland, tout le monde est toujours prêt à prendre son shoot. Kamara qui a mal démarré, là les derniers matchs, le dernier match il finit à 3 sur 3, là il en met 1 sur 1. C'est très positif de notre côté. Si ça commence enfin à rentrer, on va pouvoir remonter dans les classements au niveau attaque, parce qu'on était dans les pires attaques de la ligue. Et ouais, je pense que ça se joue là-dessus. Hein. Et puis comme tu as dit, le premier et le troisième carton qui sont diamétralement opposés, 36-20 de votre côté sur le premier et 38-20 pour nous dans notre côté, donc les deltas totalement opposés, avec les deuxième et quatrième cartons qui sont à peu près à l'équilibre entre les deux équipes. Donc ouais, le match se joue là. En premier carton, vous nous oblitérez, et puis en troisième, à la sortie des vestiaires, le Portland se réveille. Un peu comme souvent, malheureusement, on est une équipe à réaction. Et vous vous endormez, et puis après, c'est un peu trop tard. J'ai eu peur qu'on choque, entre guillemets, ce match à la fin. Parce que, si je dis pas de bêtises, à 2 minutes de la fin, on est à moins 10. Et on a une occasion à... sur le dagger de Anferni, il y a plus 3 avec 20 secondes à jouer. Donc et on a raté plusieurs occasions à la suite. Anferni, Brogdon en a raté une aussi, et Grant en a raté, je crois, à la suite. Et ce qui fait qu'on a failli laisser passer ce match, parce que si Anferni la rate cette action pour repasser à plus 5, et que derrière vous avez une occasion pour la prolongation, on aurait pu choquer ce match. Donc finalement, ça se joue vraiment à rien. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut ressortir de ce match en question, du côté portant en tout cas.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je te rejoins complètement sur la notion notamment de stop défensif que tu donnes implicitement dans ta réponse. Vous arrivez à, dans le troisième quart-temps, avec vraiment une rigueur défensive nettement supérieure, et notamment grâce à vos forwards qui nous font très envie, parce que comme le disait Hicham en début de podcast, on a un problème sur les forwards, et en plus, deux de nos meilleurs défenseurs sur ces postes 3, 4 étaient absents hier, à savoir Josh Okogie et Ketabé Diop. Donc clairement, c'était quand même super difficile, nous, de faire des stops défensifs en l'absence de notre défenseur principal, qui est Josh Okogie, qui est normalement notre défenseur sur point of attack, donc, qui aurait pu s'occuper de Anthony Simmons, qui nous a fait œuf jambon fromage hier soir, notamment dans le troisième. Et oui, donc là, l'incapacité à pouvoir faire des stops défensifs hier, que vous avez fait, nous a mis dedans grave dans le troisième carton, que vous avez pris 38-20, effectivement. Alors, on va marquer une petite pause, et puis on va revenir tranquillement sur quelque chose qui est toujours intéressant à discuter, avec cette question un peu en forme de take, un peu provocatrice. Qui a gagné le trade? DeAndre Ayton, Yusuf Nurkić. Retour dans Valley Hoop, et après avoir abordé le match d'hier contre les Blazers, on va parler de quelque chose de peut-être d'un petit peu plus libre, d'un petit peu plus léger aussi. Quelques matchs se sont déroulés depuis cet été, on a pu avoir à la fois d'un côté comme de l'autre des idées qui se sont développées, qui ont peut-être changé aussi vis-à-vis de Yusuf Nurkić côté Suns et de DeAndre Ayton côté Blazers. À l'intérieur des trades qui concernent cet échange de pivot à pivot, il y a aussi d'autres assets qui sont arrivés des Blazers et des Suns dans les équipes respectives, à savoir Toumani Kamara côté Blazers et Nassir Little, l'ancien Rose côté Suns. Moi, j'ai envie de discuter de ce trade avec vous parce que c'est une question qui agite souvent, je pense, les fanbases. En tout cas, côté Suns, ça a longtemps été une discussion, ça l'est un petit peu moins maintenant, mais c'est toujours rigolo de revenir dessus. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur les explications de ce trade qui fait évidemment partie d'un trade plus large entre les Bucks et les Blazers pour l'acquisition côté Bucks de Damian Lillard. Victor, je vais te donner la parole en premier, mais toi, comment t'expliques ce trade? Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits de ce qui s'est passé du côté du bureau de Joe Cronin dans l'Oregon?
Tout d'abord, il y a eu un revirement de direction total, quoi, qui depuis 10 ans, c'était tout autour de Dame, surtout depuis le départ de LaMarcus Aldridge. C'était vraiment tout autour de Dame, tout était centré autour de lui. On a tout tenté, tous les role players possibles, tous les lieutenants possibles, enfin qu'on pouvait attirer autour de lui. Et puis cet été, trop c'est trop. Joe Cronin, qui est un nouveau GM qui est là en poste depuis un peu plus d'un an, 18 mois je dirais, total revirement de direction. C'était beaucoup plus simple selon lui de recommencer à, pas totalement à zéro, mais de recommencer sans Lillard, parce qu'il voyait que peut-être qu'on allait s'obstiner pour rien à chercher à trouver un nouveau lieutenant. Ça parlait de Siakam, ça parlait de gars comme Ingram, etc. En tradant par exemple notre pick 3 de cette année, etc. Damien Lillard a accepté de se reposer sur le banc pendant les 20 derniers matchs, justement pour avoir un pick haut et pouvoir avoir un nouveau lieutenant grâce à ce pick haut. Malheureusement, c'est pas ce qui... Joe Cronin, je pense qu'il a été honnête, il a voulu chercher mieux, mais il a pas trouvé une solution idéale, et donc il a été décidé de totalement changer la direction et de laisser Dame partir dans un contender. Et je pense qu'au final, tout le monde est heureux là-dedans.
Donc toi, tu t'estimes que les Blazers aujourd'hui sont très heureux de ce trade. Et vous, en tant que fanbase, notamment avec le compte Blazers FR, vous avez une sorte de thermomètre dans la fanbase française, ou en tout cas francophone, des Blazers. Vous vous estimez heureux que ce trade ait eu lieu cet été?
Ouais, je pense. Au début, c'était une pilule qui n'était pas facile à avaler, parce que absolument toute notre génération, il a été drafté en 2012, toute notre génération a été, ou presque on va dire, a été, est tombé fan de ouais. Portland autour de Lillard.
Ouais, biberonné aux exploits qui sont... de Lillard et rassemblé autour de Lillard. Quoi.
Voilà, c'est ça. Il y en a certains qui sont arrivés un peu plus tôt. C'était pour Brandon Roy, mais Brandon Roy, ça n'a pas duré assez longtemps. Et puis, Lillard a repris le flambeau, on va dire, et a attiré tellement de monde... Moi, par exemple, c'était en 2014 sur son shoot contre les Rockets pour finir la série, par exemple. Il y en a beaucoup qui sont devenus fans de Lillard en 2019 pour son autre shoot marquant. Tout était construit autour de Lillard. C'est vraiment le. Attention, c'est sûrement le GOAT. Après, c'est sujet à débat, mais c'est sûrement le GOAT de la franchise. Il a tous les records imaginables à Portland, donc forcément c'est un gros crève-cœur. Mais là où je voulais en venir, c'est que ça a beau être un crève-cœur, je pense qu'on s'en tire pas mal de ce trade. Surtout qu'on a passé l'été à devoir s'imaginer prendre le package qu'il y avait sur la table du Heat. Et au final, on s'en tire avec mieux. Je pense qu'on s'en tire bien. Après, on n'a pas encore toutes les clés pour juger le trade, parce qu'on a encore, par exemple, Brogdon, qui peut encore être routé. On a des pics qui sont lointains, qui peuvent être, qui sont à voir. Mais je pense qu'au global, ouais, on s'en tire bien dans ce trade.
Oui, c'est vrai que vous avez encore dans votre roster des assets qui sont susceptibles de se retrouver assez vite sur le marché, que ce soit d'ici la trade deadline cette saison ou dès cet été, en fonction de la forme que va prendre votre projet. Et en parlant de forme de projet, vous aviez quelle attente sur le profil de DeAndre Ayton au moment où il arrive chez vous cet été?
Déjà, c'est d'avoir enfin un défenseur qui est une encre défensive. Et pour le moment, on est une défense quand même correct, donc c'est et je pense qu'il a il a donné satisfaction de ce côté-là, en tout cas du terrain au niveau de la défense. Je pense que, enfin moi en tout cas, je le vois comme ça. Je vois le trade de Ayton surtout comme un pari, on va dire. C'est pas on est une équipe jeune, donc on doit lancer ce genre de pari de gars qui sont entre leur prime et leur début de carrière, quoi, qui autour de 25 ans. Je pense que c'est juste un pari et que c'est pas. S'il rate, ce sera. C'est pas que c'est pas si grave, mais dans tous les cas, on va aller à la draft, donc on aura peut-être d'autres chances de trouver ce profil-là. Et donc, moi, je suis content de ce trade et de Ayton, parce qu'au moins, c'est un pari. Peut-être que ça va cliquer et que ça va devenir enfin le pivot qu'on attendait tous, justement, aux Suns. Peut-être que ça va pas se passer, mais en tout cas, au moins, on a pris le pari de vouloir relancer, voire lancer sa carrière, en tout cas.
Oui, c'est vrai que je me souviens, enfin, c'est pas une grosse mémoire, mais hier, il y a Jeremy Grant en conf de presse ou interrogé par un journaliste qui disait que la clé avec DeAndre Ayton, c'est qu'il fallait le garder motivé. Bon, c'est une arlésienne, la motivation de DeAndre Ayton dans la fanbase des Suns et dans l'histoire de ce qui s'est passé avec lui côté Suns. Mais je comprends ces attentes autour de DeAndre Ayton. Ça a été les attentes pendant 5 ans que la fanbase des Suns a eu vis-à-vis de son pivot drafté en number one pick en 2018. Ces attentes qui n'ont jamais été comblées. Donc moi, tu vois, quand tu me parles de défense, etc., machin, c'est toujours des choses que j'ai un peu du mal à appréhender sur une échelle de valeur de manière positive. Néanmoins, je comprends complètement que dans votre projet qui est tout jeune, qui est en essence et qui surtout a une marge d'erreur et de manœuvre qui est beaucoup plus grande que celui des Suns, qui sont quand même plus dans l'optique de gagner un titre très vite qu'autre chose. Je pense effectivement que ça fait plus de sens chez vous de payer ce genre de profil 30 millions que ça ne le faisait chez nous, avec tout ce qu'il y a eu en plus comme problème dans le vestiaire ou en tout cas dans l'entente avec le reste de l'effectif qui, au bout de 4 ou 5 ans de jeu ensemble, commençait à en avoir marre. Alors nous, côté Suns, on a récupéré notamment Yusuf Nurkić. Je vais te poser la question, Hicham. Sur le papier, on savait que Yusuf Nurkić allait avoir des qualités qui, dans le jeu, répondaient sans doute aux perspectives qu'on se faisait du flow et du jeu que les Suns allaient développer sur le parquet sous l'égide de Frank Vogel et de Kevin Young. On était quand même plutôt sceptiques sur Yusuf Nurkić, sur bien des aspects. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, après quelques mois de compétition et quelques mois dans la saison, et je crois 25 ou 27 matchs joués, Yusuf Nurkić apparaît plutôt comme une bonne pioche dans ce trade?
Ouais, pour plusieurs raisons. C'est vrai que finalement, la fanbase avait mal pris ce trade au premier abord. C'était peut-être justifié. Nurkić revenait de blessures, pas beaucoup joué ces derniers temps. Puis donner l'impression d'être ce genre de pivot un peu lourd, un peu pâteau, qui allait poser de grosses difficultés, surtout en défense, à la finition. Donc on a eu les retours des fans des Blazers, on savait un petit peu à quoi s'attendre aussi. Et finalement, moi je trouve que globalement, ça a été plutôt une bonne surprise, dans le sens où je m'attendais pas forcément à ce que Nurkić déjà joue quasiment tous les matchs, voire tous les matchs, je crois, depuis le début de saison, ouais, quasiment tous les matchs. Un loupé que deux, et puis qui soit relativement productif. Il a des bonnes stats, avec un temps de jeu entre guillemets limité. Il joue 28 minutes par match, mais il a plus de 10 rebonds, 4 passes, il a plus d'un compte par match. Donc, statistiques avec des pourcentages réussite à 2 points, pas trop dégueu, même si ça pourrait être mieux. Il a parfois on l'a vu, il a du mal à finir parfois tout près du cercle ou au cercle. Il rate des bunnies, parfois de manière un peu hallucinante. Je pense que notre ami Victor connaît le sujet, j'imagine.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off avec Victor, mais il est à 56%, c'est ça, Victor, sous le cercle.
Ouais, voilà, ouais, à moins de 5 feet, donc à peu près 3 mètres, on va dire, grosso modo.
C'est,
ouais.
C'est très très bas, et en comparaison, Joel Embiid, 5
feet, c'est même 2 mètres. C'est même 2 mètres, quoi, à moins de 2 mètres, c'est-à-dire dans le petit arc de cercle sous le
panier. Ouais, c'est ça, oui, on est vraiment dans la zone restreinte, restricted area, et donc, en comparaison, DeAndre Ayton et Joel Embiid sont à 68%.
Ouais, bah ouais, on sait que Ayton, c'est sa force, c'est là où il nous manque, c'est vrai que c'était un pivot finisseur près du cercle intéressant, même si on avait la rage de le voir à chaque fois mettre ses lay-ups ou ses petits hooks quand il pouvait dunker, essayer de marquer le coup. Il n'avait pas cette férocité dans son jeu, et je pense qu'il a toujours pas, hein. Tu nous confirmeras, Victor, si ça a changé, mais voilà, il a toujours ce côté un petit peu je veux être soyeux et pas forcément brutal au cercle, ce qui est très dommage parce que on dit 2 points c'est 2 points, moi je suis pas trop d'accord. 2 points avec un dunk un peu féroce qui montre la capacité à vraiment, entre guillemets, pénétrer la raquette de l'adversaire pour démolir le cercle, ça n'a pas le même effet sur l'adversaire que le petit layup. Mais bon, passer cette petite parenthèse, Nurkic, d'une manière générale, je trouve que c'est une des bonnes surprises, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est pas non plus on s'attendait pas à ça et le mec est hallucinant, il est complètement fou, il est super bon. Il est dans son rôle, il le fait plutôt bien, il fit bien avec les autres joueurs d'équipe, Durant, Booker, il apporte un petit peu ses passes, ce côté tour de contrôle, connecteur, que faisait en gros Saric avant lui, les saisons passées, en mieux, avec quand même plus de volume de jeu que Saric. Et du coup, moi de mon côté, je pense la fanbase des Suns en général, pas dégoûté à l'instant T d'avoir Nurkic à la place de Ayton, sachant que dans ce trade, on a quand même récupéré Grayson Allen dans la foulée, qui est un des bons role-players depuis le début de saison dans cette équipe des Suns. Il est à droit, il a un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pourcentage à 3 points d'équipe, non, le deuxième, je vois, derrière Durant, sur un gros volume, puisque bah, c'est le deuxième plus gros volume, non, le troisième derrière Eric Gordon et Devin Booker, donc un gros volume, une grosse adresse à 3 points, donc Grayson Allen, lui, qui vient des Bucks, c'était vraiment la bonne pioche. Par contre, là où le bas blesse, c'est pour moi le fait que Nassir Little soit vraiment pas très bon. Faut appeler un chat depuis le début de saison, bon, il casse pas trois pattes à un canard, il prend pas énormément de rebonds, c'est pas un gros défenseur dur sur l'homme. Alors je sais qu'il revient de blessure, c'est peut-être transitoire, mais pour l'instant il m'impressionne pas, même s'il a pas des pourcentages catastrophiques. Il est à 50% au shoot, 83% au lancer franc, mais voilà, 3 points il est à 36% sur un petit volume. Mais par contre voilà, même s'il a des pourcentages honorables, il n'a pas du tout un gros volume de jeu en attaque, il marque 5 points par match et il prend pas beaucoup de rebonds. Donc moins de 3 rebonds par match, c'est vraiment pas ouf. Donc Nassir Little, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, bilan mitigé. Et là où je suis un petit peu dégoûté perso par rapport à ce trade qu'on a fait avec Portland et Milwaukee, c'est le fait qu'on ait lâché Toumani Camara, que moi j'ai
Toumani
bien aimé.
Toumani Camara, ouais.
Bah ouais, que j'ai bien aimé en Summer League. J'ai trouvé qu'il faisait des choses vraiment intéressantes et il donnait l'impression d'avoir la tête sur les épaules et d'être déjà un petit peu mûr. Il a 22 ans, je crois. Donc, c'est pas un jeune rookie qui arrive freshman en sortie d'université, mais il a fait ses 4 ans et voilà, il a un peu de bouteille et tu sentais que c'était un joueur, voilà, mature, qui pouvait apporter peut-être quelque chose, et il le prouve à Portland, surtout défensivement, il apporte énormément, et on l'a laissé filer dans ce trade pour récupérer une quiche, quoi, qu'on a laissé partir avant la saison, c'est
Keon Johnson.
Ouais. Et si on pouvait refaire ce trade sans ce swap-là, c'est-à-dire nous garder Camara et pas récupérer Keon Johnson, qu'on a laissé partir parce que le mec, en gros, était pas taillé pour jouer dans une équipe NBA, j'aurais été beaucoup plus content de ce trade. Moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est pas d'avoir perdu Ayton au final, c'est de voir ce que Camara est en train de devenir et de voir que ce mec-là aurait pu tout à fait s'insérer dans la rotation des Suns, vu ce qu'il apporte. De la défense, un peu de rebond, d'hargne, il n'est pas très adroit, 3 points et au lancer franc, il pêche au niveau de son foot, ça on le savait. Mais c'est pas ce qu'on lui aurait demandé en priorité, mais il aurait apporté dans d'autres secteurs de jeu où on a vraiment, mais grave besoin, grave, d'un profil comme ça, de la défense, de la hargne, du rebond. C'est ce qui manque dans cette équipe, quoi. On est vraiment trop tendre. Et on a besoin de durcir cette rotation. Et ça me peine un peu, tu vois. C'est vraiment le...
Oui, je comprends.
Ouais.
Je comprends et je te rejoins totalement. C'est vrai que Toumani Camara, c'était l'asset imprévu de ce trade. On va en discuter avec toi, Victor, parce qu'il est désormais aux Blazers. C'est comme on le disait en off, il montre de très très jolies choses du côté de Portland. Toumani Camara, Nassir Little font le chemin inverse l'un de l'autre. Nous, on récupère Nassir Little. Je te rejoins, Hicham, sur le côté un peu déceptif du début de saison de Nassir Little, quand bien même il soit titularisé là depuis 2 ou 3 matchs côté Suns. je trouve quand même que sur certaines possessions, il a une utilité parce qu'il a une dimension athlétique certaine, qu'il n'hésite pas justement à aller au panier de manière agressive, quelque chose qui nous manque dans cet effectif, puisque Grayson Allen et Eric Gordon n'ont pas tout à fait les cannes pour des questions strictement physiques ou juste d'âge, pour ce qui concerne Gordon qui les avait un peu plus jeunes, pour aller vraiment au panier et au cercle de manière agressive. Nassir Little le fait, et quand il le fait, généralement, ça donne plutôt bien, comparé par exemple à Chimedze Metu, qui essaie aussi de le faire, mais qui est un petit peu plus souvent en échec. Mais Nassir Little représente le rendement neutre, négatif, voire négatif, de nos forwards en ce moment depuis 5 à 10 matchs. Et malheureusement, ça tombe sur lui parce que ben, il est particulièrement titulaire en ce moment et il a un petit peu les minutes récupérées de l'absence de Keita Bédiop et de Josh Okogie. Côté Toumani Camara, donc pick belge en 52e position côté Suns, moi je me souviens très bien de ce pick parce que je me suis assez rapidement intéressé à son profil. Qu'on a présenté comme le nouveau Torrey Craig du côté des Suns. Et moi, Torrey Craig, c'est clairement un de mes chouchous, sans aucun conteste, dans la NBA du côté des roleplayers, aux côtés d'autres chouchous et d'autres noms qui sont dans la ligue. Mais j'adore le profil de Torrey Craig. Et quand on m'a dit, tu vas voir, c'est un Torrey Craig jeune, j'ai tout de suite essayé de me renseigner. C'est un prospect qui sort de Dayton, très apprécié par ses anciens camarades de jeu du côté de Dayton. Ses coachs sont dithyrambiques sur son profil, non seulement psychologique, très bon camarade, très collectif, avec une sacrée dose de leadership aussi. Et puis, sa dimension athlétique, physique, et puis un certain quotient intellectuel de game, de basket, qui est hyper intéressant sur un terrain. C'est un joueur qui arrive et qu'on voit déjà NBA ready, qui était effectivement relativement productif en Summer League du côté des Suns, les quelques matchs qu'il a joués sous notre maillot. Et puis on le voit partir dans ce trade. Victor, je vais te donner la parole. Hier, on a Chauncey Billups et Frank Vogel en conférence de presse qui racontent un petit peu ce qui s'est passé dans les bureaux de nos front office respectifs lors du trade de Damien Lillard et donc de Yusuf Nurkic et de DeAndre Ayton. Il semblerait qu'il y a eu des discussions très très soutenues entre nos front office à propos du cas Toumani Camara et que ça a été presque le point de négociation le plus difficile, le plus ardu qui a animé les discussions entre Joe Cronin et Matij Bia notamment. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce trade? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu as vu Toumani Camara arriver dans le trade avec DeAndre Ayton et les autres joueurs?
Ouais, totalement. Le Toumani, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire sur ce début de saison. Et pour l'anecdote, il avait fait un workout pré-draft à Portland, mais il n'avait pas été très impressionnant. Il a même dit que c'était un de ses pires, justement dans un article qui est sorti par Jason Quick de The Athletic. C'était un de ses pires workouts, donc, et il ne pensait vraiment pas avoir tapé dans l'œil de Portland. Et c'est à la Summer League qu'il a crevé l'écran et que Portland s'est penché sur son cas. Et donc a dit, on est obligé de l'avoir dans ce trade-là. Ce trade-là, c'était vraiment, c'était obligé de l'avoir, sinon il n'y aurait pas eu ce trade-là en question.
C'est quand même fou de s'imaginer que dans un trade qui inclut Jrue Holiday, Damien Lillard, DeAndre Ayton, Yusuf Nurkic, Nassir Little, ce soit un 52e tour de draft qui est comme ça, attirer toutes les tensions des négociations, en tout cas entre Portland et les Suns, quoi. C'est assez incroyable.
C'est ce qui ressort des rumeurs, que ça aurait pu être un deal breaker, le fait de ne pas inclure Toumani Camara dans le deal.
Ouais, totalement. Ouais. Il y a un article de Jason Quick qui a été sorti juste aujourd'hui, en plus, juste avant, là, cet après-midi. Tu pourrais aller voir, enfin, que même les auditeurs pourraient aller voir. C'est que c'était vraiment hyper important pour eux de l'avoir parce que. Bah, c'est vraiment le profil qu'on cherche, à Portland, et que toutes les franchises cherchent. Ce gros défenseur hyper âpre, hyper. Le commentateur de Portland, il dit à quasiment tous les matchs qui va under the skin, donc il va sous la peau, qui dérange tous les défenseurs. On l'a vu contre Curry il y a quelques jours. Il casse sa série de 250 matchs. Oui, il met un 3 points. Il fait un match horrible, Curry. Un de ses pires de la saison et des pires des années précédentes sur le match et en grande partie grâce à Toumani. Justement, pour revenir à vos Suns, Devin Booker qui fait un match correct statistique, mais qui est entre guillemets, qui met 26 points en 25 shoots et qui a été gardé en priorité par Toumani. Ouais, surtout, il fait quelques gros stops sur lui en troisième quart-temps. Justement, le troisième quart-temps qui a été pivot. J'avais vu la stat que Devin Booker, il était à 1 sur 6 dans ce troisième quart-temps quand il était défendu par Toumani. Donc, ça a changé en partie le match, quoi, on peut le dire.
Ouais, il est long, il est musclé, il bouge bien latéralement, il a des bons instincts, il a la hargne. Il a des belles dispositions, en tout cas au moins sur le plan défensif, et c'est la bonne pioche, je pense, pour vous les Blazers.
Tu disais que c'était un vieux rookie, et justement, si on peut mettre en parallèle, vous avez parlé de Keon Johnson, je pense que c'est pas vraiment à mettre en parallèle Keon Johnson et Toumani, mais plus Nasir Little et Toumani dans ce deal-là. C'est que en fait Little a le même âge que Toumani, ils sont de la même année, c'est des 2000 tous les deux, donc ils ont 5-6 mois de différence, sauf que Nasir Little elle est déjà dans son deuxième contrat de la ligue, il est déjà à sa cinquième année, Toumani a l'air d'un rookie, Nasir Little on est limite qu'il est quasiment dans la case des vétérans alors qu'ils ont le même âge, ils ont tous les deux 23 ans, ça c'est fou de se dire ça, et au final le meilleur à l'instant T c'est le rookie. Ce que pas grand monde aurait prédit.
Est-ce que Toumani Kamara est meilleur maintenant que le Nasir Little d'il y a, je sais pas, un an et demi ou quelque chose comme ça, avant sa blessure quand il
était justement vraiment... pour donner mon point de vue sur Nasir Little, l'ayant vu pendant 5 ans du coup, je pense que vous voyez à peu près le même Nasir Little comme vous voyez le même Nurkic que nous on a vu sur les dernières années. C'est un joueur qui c'est très frustrant de le voir parce que moi au début, je l'attendais vraiment, quand il y avait des flashs, je l'attendais vraiment avec un plafond au niveau des Harrison Barnes et des Iguodala de Golden State. Et force est de constater qu'il n'y arrive pas, et c'est en grande partie à cause des blessures, parce que c'est un joueur qui n'arrive pas à enchaîner les matchs et qui a besoin de confiance. Comme beaucoup de shooters, il a besoin d'enchaîner les matchs pour ça. Nasir Little, ouais, c'est le gros problème, c'est son état de santé. Il n'arrive pas à enchaîner les matchs et forcément, t'as pas de confiance, il a besoin de son physique pour briller, justement comme Toumani. Je pense qu'ils ont pas loin d'avoir le même physique, mais Nasir Little, il a jamais été laissé tranquille par les blessures, c'est très frustrant. Mais je pense qu'il y a quelque chose à exploiter autour de lui. Faut juste qu'il arrive à rester en bonne santé, quoi.
Oui, parce qu'il me semble que c'est un tour de draft assez haut, Nasir Little. Hein. C'est un prospect qui sort d'université relativement haut, il me semble. Hein.
Je crois 23, non
si ouais, de mémoire, c'est entre 20 et 30. Ouais.
C'est quand même assez correct. C'est-à-dire c'est des joueurs dont on attend quand même qu'ils aient un rendement, soit de titulaire, soit dans une rotation de 8 en play-off, avec un vrai apport en sortie de banc ou à la Jay Crowder ou à la PJ Tucker aujourd'hui dans la NBA. Donc c'est quand même des mecs... dont on attend des choses. Et c'est vrai que Nasir Little, bon, moi, je ne suis pas complètement et fermement définitif à son sujet. Je ne l'enterrerai pas et je ne le ferai pas sortir d'une rotation nécessaire côté Suns parce que je pense que sur un 5-10 minutes, il peut apporter. Mais c'est vrai que clairement, on préférait avoir Toumani Kamara aujourd'hui. Et ce type qui n'a jamais joué sous notre maillot nous manque. C'est ça qui est fou quoi, dans la fanbase des Suns, c'est que un mec comme Toumani Kamara qui n'a jamais joué officiellement sous notre maillot en saison régulière nous manque davantage qu'un pivot drafté en premier tour de draft. Les gars, je vous propose de clôturer là-dessus.
Juste Greg, une petite chose. Juste par rapport à Little, pour le situer dans le contexte des Suns, on le sait, bon, il est en concurrence avec Keita Bates-Diop, Josh Okogie en gros, et Yuta Watanabe sur ses postes plutôt 3, peut-être un peu 4 en small ball, et il n'est pas en grosse difficulté non plus. Nasir Little, il a sa carte à jouer, parce que les autres à côté sont carrément moins bons que lui. Quoi. C'est ça qui est ouf. Bon, Josh Okogie, ça peut se discuter, mais parce qu'il apporte défensivement, mais c'est une telle liability en attaque que finalement, Nasir Little, il a sa carte à jouer dans cette équipe des Suns, quoi. C'est ça qui est ouf, même s'il n'est pas bon depuis le début de saison, même s'il apporte pas énorme, il a quand même sa carte à jouer. Donc normalement, on devrait voir dans les prochaines semaines et prochains mois si vraiment il y a quelque chose à en tirer du côté des Suns pour cette saison, quoi.
Et ouais, c'est ça le truc, c'est que les Suns vont devoir essayer de tirer un peu au clair qui, entre Yuta Watanabe, Keita Bates-Diop, Josh Okogie et Nassir Little, et on peut rajouter Shimizu Metu au poste 4 plus qu'au poste 3, mais toujours sur les forwards. Dis-moi tout.
Je disais, c'est mon chouchou, quoi. Metu, ouais, dans le lot, c'est celui qui a le plus de potentiel pour moi et qui est capable d'afficher de belles dispositions s'il épure son jeu. Il fait des erreurs de rookie alors qu'il n'est pas rookie. Des pertes de balles en dribble, bêtes, voilà, parfois des erreurs de placement. En défense, il a tendance à être un petit peu en défense matador alors qu'il a quand même un physique et qu'il est capable d'apporter plus que ce qu'il apporte actuellement. Mais tu sens qu'en termes de potentiel et de complémentarité et de volume physique de ces cinq joueurs que tu as cités, des deux côtés du terrain, pour moi, en profil complet, complémentaire des stars et que je verrais bien s'insérer durablement dans la rotation, voire même dans le 5, c'est Metu. Voilà, bon, moi, c'est mon petit pari. On verra si j'ai raison ou non, mais je pense que d'ici quelques mois, Metu sera plus discuté comme étant ce cinquième starter dont on a besoin dans l'équipe, quoi. Je crois en lui.
Eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques mois, dans quelques semaines même, hein, parce que, à mon avis, on va en rediscuter très vite, je pense, d'ici, alors début janvier, évidemment, quand on va se retrouver pour le prochain podcast de Value Hoop, le premier de l'année 2024. Mais ensuite, je pense qu'effectivement, l'échéance, c'est d'avoir fait le tri, peut-être avant le All-Star Game en février, d'avoir fait le tri dans ses forwards et dans la rotation et dans la distribution des minutes. Victor, c'était un plaisir de t'avoir. Tu as très bien représenté le clan des Blazers dans ce podcast. Wow. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. On espère que tu as autant profité de ta présence ici que nous avons profité de la tienne.
Totalement.
Et on espère que tu reviendras avec grand plaisir quand les Suns gagneront enfin un match contre les Blazers.
Vous avez gagné le premier, on prend le deuxième.
Ouais, on verra. Au moins deux autres, non, cette saison ?
Ouais. Au moins un, c'est sûr, ouais.
Allez, on attend avec impatience cette confrontation. Hicham, merci beaucoup. Hâte de te retrouver début 2024, en janvier.
Yes.
Très bonnes fêtes, tout le monde, toute bonne l'audience de Valley Hoop, les centaines de milliers de personnes qui écoutent ce podcast. On vous aime très fort, on vous embrasse.
Ouais, à vous tous, de très bonnes fêtes.
Et à très bientôt. Ciao.
Bye bye.
Ciao.
These boys are my sons like Phoenix, my city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, Sun came out, I went about to drop top.